Règlement de compte. Une émission proposée par le docteur Dominique Desmichel, médecin généraliste et psychanalyste, et Simon Martin. Qu'est-ce qu'un conte, sinon un affrontement entre les forces de la lumière et celles des ténèbres? Une lutte à mort où les forces du bien sont souvent du côté du plus faible et celles du mal du côté du plus fort. Le monde lui-même, à travers le regard des contes, semble être plutôt régi par le mal, avec au milieu cette petite flamme qui continue à brûler. À la fin, le bien triomphe, le mal est puni, rejeté aux portes du monde, déclassé. Est-ce seulement une question de moralité, comme on le trouve chez Perrault? Nous ne le pensons pas, nous qui voyons dans le conte une réponse à des questions fondamentales qui définissent l'homme, son rapport au monde et son lien avec le divin. Voilà sur quel sentier nous nous engageons, le docteur Dominique Desmichel et moi-même, suivant à la trace les cailloux blancs déposés par le petit poucet. Docteur Dominique Desmichel, bonjour.
Bonjour Simon, et merci pour cette super introduction. Je ne sais pas si je vais arriver à suivre, mais... Ouais.
Alors, cette question du mal, on la retrouve, c'est vrai, omniprésente dans les contes, et particulièrement dans les contes de Grimm.
Oui. Donc, il faut se rappeler, hein, Perrault et Grimm, il y a à peu près 150 ans d'écart, hein, pour se situer un tout petit peu. Et c'est vrai, comme vous le disiez dans votre introduction, il y a souvent une petite dimension un peu morale à la fin, hein, des contes de Perrault qui dit, voilà comment il faut bien penser. Hein, on est en gros au siècle de Louis XIV, on va dire, pour faire simple. Dans les contes de Grimm, c'est plus subtil. Le statut de l'enfant a aussi un petit peu changé. L'enfant est devenu beaucoup plus une personne un siècle et demi plus tard. Voilà, et c'est vrai que cette question du mal, elle est importante. Peut-être on peut penser que c'est quand même aussi une très très grande question philosophique, hein, dans notre civilisation. On est confronté à cette question du mal. L'actualité est remplie de drames, elle est remplie de souffrances. Et probablement, on peut d'ailleurs penser que l'accumulation des souffrances de l'humanité est quelque chose de tout à fait incommensurable, depuis qu'on peut en tout cas l'apercevoir. Mais au sein de cette souffrance, qui n'est pas toujours liée au mal, qui est liée à un accident par exemple, voilà. Mais il y en a une qui est liée au mal que l'homme déploie vis-à-vis de son proche, vis-à-vis de ses ennemis, vis-à-vis de ceux qu'il aime aussi, et que cette question du mal, c'est quelque chose qui est difficile, hein, difficile à traiter, donc on peut en effet essayer d'y réfléchir un tout petit peu.
Alors pour revenir au conte de Grimm, vous vouliez nous lire un tout petit conte? Justement,
oui.
Pour montrer la cruauté de...
Voilà, c'est ça. Alors, comme vous le disiez dans votre introduction, le plus souvent, le conte raconte une situation dramatique et puis il va y avoir une fin heureuse. C'est pas juste dans la perception d'être du côté des bisounours, mais dans le sens qu'il y a une question qui est opposée et le conte apporte une solution. Et cette solution va aider. Alors, par contre, dans les contes de Grimm, ils ont souvent été mis un petit peu à part. Il y a des contes qui sont absolument horribles, dont un que je vais vous lire et que les oreilles sensibles se bouchent les oreilles ou aillent faire un petit tour dans leur jardin ou baissent le son. Un jour, un père de famille égorgea un cochon et ses enfants le virent faire. Un après-midi, comme ils voulaient jouer ensemble, l'un des enfants dit à l'autre « Toi aussi, tu seras le petit cochon et moi, je serai le boucher ». Sur ces mots, l'enfant saisit un couteau et le planta dans le cou de son petit frère. La mère, qui était en haut de la maison, occupée à baigner son nouveau-né dans un baquet, entendit les cris de son autre enfant. Elle descendit aussitôt l'escalier en courant et, quand elle vit ce qui s'était passé, elle retira le couteau du cou de son enfant et, sous le coup de la colère, elle le planta dans le cœur de celui qui avait été le boucher. Elle se précipita ensuite dans la pièce pour voir ce que faisait l'enfant qu'elle avait laissé dans le bain, mais entre-temps, celui-ci s'était noyé. La femme en fut si effrayée qu'elle tomba dans le désespoir. Ses domestiques ne parvinrent pas à la consoler et elle se pendit. Le mari rentra des champs et à la vue de tout cela, il eut tant de chagrin qu'il mourut peu de temps après.
Mais là, on voit... ça ressemble à un fait divers, hein, très glauque.
Ouais. Mais c'est vrai que ça pourrait ressembler à un fait divers tragique. et probablement d'ailleurs malheureusement qui pourrait exister, hein, peut-être dans une forme un peu moindre, mais quand même.
Alors, nous, c'est le petit poussé que nous allons suivre à la trace et puis essayer de débusquer le mal dans ce conte. Le mal, on le voit bien, c'est d'abord la figure de l'ogre.
Oui, tout à fait. Hein. Dans ce conte, il y a deux figures, on pourrait dire, opposées. La monstruosité, en effet, de l'ogre, dont je rappelle qu'il a égorgé, violé ses enfants. Hein. Il pensait que c'était les petits poussés, mais en fait, ce sont ses filles. D'un côté, il y a ça, et de l'autre, il y a le courage de ce petit enfant. Et si l'hypothèse d'un ogre lui-même victime de quelque chose, elle est acceptable, dans un sens, hein, on sait bien qu'une grande partie des criminels ont des histoires qui sont tout à fait terrifiantes, il n'empêche que là, il y a quelque chose de tout à fait terrible et que ça vient nous interroger assez en profondeur. Alors, j'avais dit dans les émissions précédentes hein, que je pensais que cette figure de l'ogre, ce n'était pas une figure de dévorateur, on n'est pas du côté d'une oralité, mais on est du côté d'une sorte de sexualité, c'est-à-dire au fond que la figure de l'ogre, c'est la figure du pédophile. Son crime a toujours fait horreur, il reste quelque chose qui est absolument inacceptable dans notre société. Beaucoup de gens ont énormément écrit sur la psychopathologie de ces criminels et c'est vrai qu'on peut retrouver en général des grandes blessures, mais que cette dimension ou cette interrogation autour de la perversion, c'est quoi ? Je vais y revenir un tout petit peu, mais il y a toujours en tout cas une jouissance à faire mal. Il y a souvent derrière une angoisse qui, on pourrait dire, de type un peu psychotique, c'est-à-dire on n'est pas dans une problématique des gens à peu près normaux, c'est-à-dire névrosés. Je ne vais pas y revenir, mais j'en profite juste pour dire un tout petit peu ce que c'est que la perversion. La perversion, pour dire les choses de manière simple, puis après je vais reprendre un exemple, la perversion, c'est l'idée qu'il n'y a pas d'autre. L'autre n'existe pas, il n'est qu'un objet. Je vais prendre un exemple de perversion classique, c'est la relation sadomasochiste. Le sadique, au fond, il prend l'autre, celui qu'il va sadiser, comme un objet, et l'autre n'est pas une personne, il s'en sert. Et il a cette jouissance. Donc, pour le sadique, c'est tout pour moi et l'autre n'existe pas. Le masochiste, c'est la figure opposée, c'est-à-dire je n'existe pas et tout est pour l'autre. Hein, c'est-à-dire je donne tout à l'autre. Voilà. Donc, on voit bien dans cette relation, c'est qu'ils sont tous les deux bien contents. Hein, le sadique et le masochiste. On connaît de ces couples sadomasochistes dans lesquels il y en a un qui persécute l'autre et on ne sait pas toujours là où c'est le plus terrifiant à comprendre, puisque pour le masochiste aussi, on a envie de se dire de temps en temps, pour prendre quelque chose de très classique, même si c'est un peu des clichés, mais qu'est-ce qu'il en est de ces femmes qui restent avec des hommes qui les agressent, qui les battent, hein ? Il faut se rappeler que dans le cadre de la violence conjugale, il y a une femme tous les 3 jours en France qui meurt. Hein, donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout un fait divers qui arrive une ou deux fois par an.
Alors la perversion, nous y reviendrons hein, évidemment, parce que c'est aussi au cœur de ce conte du Petit Poussé. Mais en préambule, ce qui me semblait intéressant de souligner, c'est que le Petit Poussé, et comme beaucoup de contes populaires, propose une réponse.
Voilà, c'est pour ça que je vous propose qu'on essaye de reprendre un tout petit peu quelque chose autour du mal, de l'histoire un tout petit peu du mal, et puis ensuite qu'on essaye de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de ce conte et en quoi il y a une forme de solution par rapport à cette perversion, cette pédophilie de l'autre.
Alors l'histoire du mal, elle remonte évidemment à l'histoire de l'humanité.
Alors oui,
la question du mal en tout cas.
Oui, alors j'ai pas trop les compétences pour reprendre sur le plan philosophique. On va dire quelques petits mots pour mettre quelques petits jalons et surtout pour dire que suivant les époques et suivant les philosophes ou suivant les penseurs ou suivant les humanistes, il y a une perception du mal qui est variable. Voilà, par exemple, Platon pense que nul ne fait le mal volontairement. Hein, c'est-à-dire au fond qu'il y a, quand on fait apparemment du mal, c'est pas quelque chose qui est choisi et c'est quelque chose qu'on fait un petit peu par inadvertance, par erreur. Ça renvoie d'ailleurs à l'étymologie du mot « faute » qui est « faillita » et « faillita », c'est une erreur. Saint Augustin, lui, dans son enfance, il raconte ça dans ses mémoires ou dans ses aveux, hein, puisque le mot « confession » a été traduit plus tard dans une nouvelle traduction qui date peut-être d'une dizaine d'années par le mot « aveu ». Il dit qu'il a volé des pommes quand il était enfant dans un jardin, il est passé au-dessus du mur, il a volé des pommes, et il dit que c'était essentiellement par orgueil. Spinoza, lui, il va insister beaucoup sur l'idée que c'est quelque chose qui appartient à l'homme. Et pour Leibniz, c'est intéressant de voir, parce que lui, il va se poser les questions en particulier par rapport à Dieu. Et il va s'interroger en disant, mais qu'est-ce que c'est que ce monde dans lequel il y a un Dieu? Et il dit, au fond, en quelque sorte, soit Dieu est bon et le mal existe, et si Dieu est bon et que le mal existe, alors Dieu n'est pas tout-puissant, parce que normalement, Dieu devrait empêcher le mal. Ou alors, Dieu est tout-puissant et le mal existe, et alors il n'est pas bon, parce qu'il n'essaye pas de l'empêcher, il devrait essayer d'empêcher. Donc on voit bien qu'on est du côté, en tout cas, d'un exercice de la pensée, devant une perception du divin qui est que, entre la toute-puissance et la toute-bonté, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou on est tout-puissant, et dans ces cas-là, on se débrouille, on claque des doigts, et puis il n'y a pas de problème, il n'y a pas de mal. Ou alors on a envie d'être tout bon, et dans ces cas-là, on fait tout pour empêcher le mal, bah, on se dit, bah alors Dieu, il est aux abonnés absents, on ne peut pas lui passer un petit coup de téléphone.
Alors, il y a une solution qui a été trouvée depuis la nuit des temps également, c'est celle de la liberté qu'on retrouve dans la Genèse.
Voilà, donc ça.
Que le peuple juif met tellement en avant.
Voilà, alors c'est une réponse en effet qui est tout à fait classique et qui consiste au fond en quelque sorte à se réfugier dans le libre arbitre, c'est-à-dire Dieu crée l'homme libre, donc l'homme est responsable du mal. Mais on voit tout de suite que cette idée, en fait, elle est complexe et elle pose un énorme problème. Parce que si Dieu est supposé être omniscient, ça signifie que s'il crée l'homme libre, il sait par avance que sa créature est susceptible de faire un mauvais usage de sa liberté. Je prends un exemple. Si je crée une machine en sachant qu'elle va causer un mal épouvantable, alors évidemment, si je le sais à l'avance, je suis co-responsable de ça. Hein. Voilà, les gens qui ont commencé à réfléchir sur la question de la bombe atomique, par exemple, Heisenberg, comme physicien, il va jeter les bases de ce qui va devenir après la bombe atomique. Ben, on peut dire que, bien évidemment, il n'est peut-être pas directement responsable, c'est pas lui qui a lâché la bombe sur Hiroshima ou Nagasaki, mais que ses travaux, voilà. Donc, si on pense de ça, on voit bien, mais Dieu, quand même, s'il sait les choses à l'avance, pourquoi il a autorisé cette possibilité? Donc la seule façon, il me semble, de s'en sortir, c'est en effet de poser l'idée que la liberté de l'homme, elle passe par le risque, même si c'est un risque qui est terrifiant, le risque de pouvoir choisir le bien et le mal. C'est ce qu'on retrouve dans le texte de la Genèse avec « il faut consommer de cet arbre de la connaissance du bien et du mal ». Tant qu'on n'a pas consommé de ce fruit, alors on est encore comme des enfants. Les enfants, on dit qu'ils font des bêtises. Moi, je pense que les enfants, ils ne font pas des bêtises. Ils expérimentent certaines choses. Puis à un certain moment, en grandissant, on leur apprend à dire « mais ça, ce n'est pas bien, ça, ce n'est pas juste, ça, ce n'est pas, tu n'es pas en adéquation avec des pulsions de vie, mais c'est quelque chose qui fait du mal à l'autre. » Ou alors toi-même, tu ne te respectes pas. Ou dans l'enjeu de la relation, il va y avoir quelque chose qui risque d'être blessé. Donc, il vaut mieux ne pas faire ça. Hein. Donc, voilà. Donc,
Je peux renvoyer aussi peut-être à Emmanuel Levinas, qui a énormément travaillé sur la liberté et qui explique que Dieu s'est retiré pour laisser la place à l'homme et qu'il a créé l'homme pour avoir quelqu'un avec qui dialoguer. C'est très beau hein, comme idée.
Tout à fait.
Idée, hein.
Tout à fait.
C'est complexe, évidemment, mais c'est très beau. Ouais.
Non, mais c'est très juste. C'est-à-dire, au fond, l'idée, ça serait, que vous reprenez, c'est la création n'est pas achevée. Hein. C'est-à-dire, voilà, il y a eu une création par le divin, ou par la divinité, ou par Dieu, mais cette création, elle sera achevée lorsque l'humain, probablement, aura rejoint le divin. Voilà. Mais ça passe par l'exercice de cette liberté.
Alors, au XXe siècle, et même avant, évidemment, mais au XXe siècle, peut-être plus, avec le génocide de la Shoah, enfin, la Première Guerre mondiale également, la question des raisons du mal s'est aussi posée. Et là, on avait deux camps, le mal comme une jouissance, d'un côté, et puis la banalité du mal, comme l'a défendu Hannah Arendt.
Oui, alors dans la perversion, il y a en tout cas une
jouissance. Voilà.
Hein, il y a une idée de jouissance. Et puis, en effet, Hannah Arendt, elle a montré au moment du procès d'Eichmann en Israël que probablement, qu'il semblait que cet homme était finalement un homme ordinaire qui avait obéi à des ordres et que finalement il n'avait pas probablement une pleine conscience de ce qu'il faisait. Alors je ne vais pas revenir là-dessus parce que c'est d'abord extrêmement compliqué. Ce livre est un livre tout à fait passionnant.
Mais qui ne se résume pas en trois phrases de toute façon, évidemment.
Ouais. Et puis il y a eu des tas de prises de distance, des tas de controverses au-dessus de ça. Ce que je crois que... Ce qu'on peut dire, il me semble, c'est qu'on peut peut-être revenir à cette définition de Paul Ricoeur, hein, dans une philosophie plus contemporaine. Et il dit, le mal, c'est ce qui est et ne devrait pas être, mais dont nous ne pouvons pas dire pourquoi cela est. C'est-à-dire, au fond, il revient à dire que dans le mal, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une énigme. En même temps, il y a quelque chose de troublant, puisque définir le bien est quelque chose d'extrêmement difficile. Réunissez, par exemple, des gens, et puis demandez-leur de définir si quelque chose est bien, c'est extrêmement difficile. Alors qu'il y a beaucoup plus facilement un consensus pour définir le fait que c'est quelque chose qui est mal. Hein, voilà. Donc, voilà, il y a quelque chose qui est, c'est comme ça, on ne sait pas très bien pourquoi c'est là, et il faut vivre avec.
Alors, il y a une question importante autour du mal, c'est celle de la responsabilité. On le voit dans les jugements aux tribunaux, des personnes peuvent être qualifiées irresponsables, et du coup, elles ont pourtant commis un crime atroce.
Je vais reprendre quelque chose de peut-être beaucoup plus simple. J'étais la semaine dernière là dans un pays d'Afrique noire avec on était trois couples là et on était frappé par certaines cultures. On est allé dans des tribus voilà là où peu de entre guillemets touristes vont. On a assisté à une cérémonie hein, de mariage ou plus exactement de pré-mariage dans lequel il y a des rituels qui nous ont particulièrement choqués. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce ressenti à l'intérieur de nous-mêmes nous mettait mal à l'aise. Hein. Et ça rejoint, parce que vous l'évoquiez, ça revient à ce qui a été appelé, je ne sais pas trop par qui, une culpabilité ontologique. Hein. C'est-à-dire, voilà, on se sent coupable de quelque chose. En gros, dans le rituel, ici, il y avait des hommes qui fouettaient des femmes. Voilà, évidemment, ça nous dérange. Alors, je rappelais en même temps que le nombre de viols qu'il y a par jour de femmes est extrêmement important. Et comme je le disais tout à l'heure, aussi, dans les violences conjugales, je pense que l'Europe n'a pas grand-chose à dire, n'a pas de leçon de morale à faire, par exemple, à l'Afrique noire. Mais on voit bien là qu'il y a quelque chose, d'une sorte de sentiment de culpabilité qui renvoie à ce mal ontologique qui reste pour nous, il me semble, une énigme. Donc la question devient, il me semble, peut-on vouloir le mal ? Peut-on faire le mal en sachant que l'on fait le mal ? Et celui qui commet le mal, est-ce qu'il est un monstre ? Est-ce qu'il est un pervers ? Celui qui jouit du mal qu'il fait, quand bien même il n'en attend rien d'autre que cette jouissance, est-ce qu'il y a lieu de le condamner ? Alors je crois que si le mal est en lui-même souvent une souffrance intense, prolongée, éventuellement associée à une très très grande terreur ou à un sentiment d'assujettissement à l'autre, hein, par exemple le masochisme par rapport au sadique, il me semble que quand on réfléchit à la question du mal, il apparaît bien qu'il n'a pas de finalité en lui-même. Il n'a pas de finalité. Alors qu'on peut dire que du côté du bien, il y a une forme de finalité puisque ça va donner de la vie. Ça va donner de la vie. Et le plus de vie, en général, eh bien, ça donne du sens. Et quand on donne du sens, on donne de la vie.
Voilà. Le fait qu'il n'y ait pas de finalité n'enlève pas la responsabilité.
Non, ça n'enlève pas la finalité, la responsabilité. Mais en même temps, ça rajoute quelque chose du côté de l'énigme, finalement. Parce qu'on pourrait dire faire le bien, bah oui, ensuite tout le monde est mieux. Donc il y a une sorte de finalité dans une forme de ressenti. Tandis que dans le mal, c'est plus compliqué. Et à ce moment-là, et à cet endroit-là, j'ai bien envie de faire la différence entre l'histoire du mal et de la souffrance. Hein. Parce qu'il y a une souffrance qui est liée juste à une blessure, par exemple. Hein. Si vous tombez accidentellement, vous avez mal, mais il n'y a pas eu de mal qui a été fait, par exemple. Cette souffrance que l'on ressent dans son corps, elle n'a pas de sens en elle-même. Hein. Je pense que c'est bien, bien important. Il me semble, une lecture un peu perverse, en particulier chrétienne, mais probablement avant. Michel Foucault avait bien montré que ça existait avant, en particulier dans la pensée grecque ou même peut-être pré-socratique. Voilà, la souffrance, ça ne sert à rien, ça peut être une puissance d'éveil, mais il n'y a pas lieu de penser la souffrance comme étant utile à quelque chose. Voilà, j'ai bien envie de le dire parce qu'il me semble là, c'est vraiment rajouter le mal à la souffrance.
Alors dans le cas qui nous occupe, celui de l'ogre qui souhaite dévorer le petit poucet, nous parlons de pulsions perverses. Et là, le psychanalyste a un rôle à jouer. Parce que les pulsions, on est responsable ou pas de ces pulsions, finalement?
Non, les pulsions... non, on n'est jamais responsable de ces pulsions, on n'est jamais responsable de ces sentiments, mais on est responsable de ce que l'on fait de ces pulsions.
Exact, effectivement.
C'est pas la même chose. Ouais. Hein, voilà.
C'est bien de faire la différence. Oui.
Voilà. Et donc, voilà, de temps en temps, je sais pas, je vais en prendre un exemple extrêmement trivial... mon voisin s'est garé depuis 3 fois devant mon garage et tous les matins, je suis obligé d'aller sonner à sa porte pour qu'il pose sa voiture parce que je ne peux pas sortir, alors que je lui ai déjà dit 3 fois et je sens bien qu'il le fait exprès. J'ai vraiment envie de lui en mettre une dans la figure. Je ne suis pas responsable de ma pulsion. Après, je suis responsable du fait que je vais le faire ou non. Voilà. Et en particulier, quand il y a un conflit, l'idée du tiers qu'on appelle la justice est très importante parce qu'elle vient dire justement... que la pulsion, elle est là, mais qu'on est responsable de nos pulsions et qu'il y a lieu qu'on les contienne et que s'il y a un conflit, on fasse appel à un tiers qui va donner de manière moins affectée ce qui est juste et qui va faire un rappel à la loi.
Mais en tant que psychanalyste, docteur Dominique Michel, vous êtes bien placé pour savoir que les pulsions sont justement parfois extrêmement difficiles à contrôler, qu'elles soient dans n'importe quelle névrose ou pathologie possible.
Oui.
Le problème, il est justement là.
C'est-à-dire, la pulsion en elle-même, elle n'a pas une valeur positive ou négative. Si j'ai envie de donner un coup de poing à mon voisin, c'est parce qu'il faut bien que je me défende, dans une certaine mesure. Simplement, il y a lieu de penser. Et donc, la pulsion me dit, mais il m'énerve, je ne le supporte pas, je vais lui en mettre ou je vais crever ses pneus, comme ça, puis ça lui apprendra. Donc là, cette pulsion, en soi, elle est, il faut que j'assure mon autonomie, et la possibilité le matin de sortir de mon garage sans être obligé d'aller demander à mon voisin parce que c'est ma place et j'ai le droit de sortir. Donc cette pulsion, elle est une pulsion défensive, elle est une pulsion de sécurité. Tout est ensuite fonction de la manière dont je le déploie.
Mais dans le cas d'un tueur en série ou dans le cas d'un pédophile, on imagine bien que c'est, même si les pulsions ont la même source, la même valeur, elles sont beaucoup moins contrôlables.
C'est toute la question de la perversion. Hein. C'est-à-dire à partir du moment où la pulsion en elle-même ne sert que le mal, on est dans quelque chose qui est du côté de la perversion. Hein, c'est-à-dire, il n'y a pas d'altérité. Je reprends mon exemple basique que j'ai donné tout à l'heure de mon voisin. Qu'est-ce qui fait au fond que je ne vais pas aller crever ses pneus pour l'embêter? C'est qu'il va y avoir une instance à l'intérieur de moi qui me dit « c'est disproportionné, ça ne va pas, il vaut mieux que j'aille causer avec lui ». Voilà. Celui qui est pervers, il va se dire « je vais pousser sa voiture et je vais la voiture dans le ravin ». Et si en plus le chauffeur est dans la voiture, eh ben ça sera encore mieux, je serai débarrassé de mon voisin. Il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, voyez. Donc là, la pulsion en elle-même, elle est une pulsion à partir du moment où on existe. C'est-à-dire la pulsion de croire en la vie, par exemple, en particulier quand on est adolescent, elle est extrêmement, extrêmement importante. La pulsion qui fait que quand on est en état de légitime défense, on va pouvoir saisir un caillou et puis le jeter sur son adversaire et assurer sa survie par rapport à quelqu'un qui vous agresse, elle est très très importante. Donc je dirais la pulsion en elle-même, elle est ni bonne ni mauvaise.
Arrivé à ce stade de l'émission, docteur Dominique Michel, vous souhaitez nous proposer un mythe, le mythe de Gigès,
oui.
Justement pour illustrer cette histoire du mal et de la responsabilité du mal.
Voilà. Alors ça c'est un élément important parce qu'on va revoir la notion du fait du tiers. Hein. On pourrait citer Kant, par exemple, qui dit, en gros, si tu ne sais pas si ta décision est bonne, parle-en à plein de gens. Si tu vois que tu n'arrives pas à en parler à plein de gens, elle est un tout petit peu suspecte. Il appelle ça en gros le principe de publicité. Alors, le mythe de Gigès, c'est quoi? Cet homme qui, semble-t-il, aurait peut-être existé, c'est au départ à une sorte de berger tout à fait modeste. Et puis, en fait, il va le découvrir. Alors, il y a plein de versions. Hein. Donc, il découvre, c'est des lieux différents, mais enfin, peu importe. On dit dans les flancs d'un cheval d'airain, un anneau d'or qui va donner à celui qui le porte la possibilité de se rendre invisible. Vous voyez, ça a été repris dans toute la mythologie des Nibelungen, repris par Wagner après. On revoit ça dans Le Seigneur des Anneaux. Enfin, c'était quelque chose qui est très, très classique. Gigès, il prend l'anneau, il le passe à son doigt, et puis il devient invisible, et il se rend chez le roi, et il l'assassine en toute impunité. Il prend sa place, il devient le souverain de cette région de Grèce qui s'appelle la Lydie, et il épouse la reine, En un mot, rien lui résiste. Et cette histoire, en fait, qui a été inspirée par Hérodote, elle est reprise par Platon au sujet de la notion, justement, de justice, et Cicéron, donc là, on n'est plus du côté de la Grèce, on est du côté de Rome, va le reprendre. Et au fond, la question pourrait se résumer ainsi, est-ce qu'on peut rester honnête si l'on peut commettre le mal en toute impunité ? Alors, on sent bien à l'intérieur de nous-mêmes que la réponse, elle n'est pas si simple que ça. Parce que finalement, si on pouvait, je prends un exemple simple, voler dans les magasins en étant sûr de ne pas être pris, et en se disant que finalement, le grand magasin, si on prend une tablette de chocolat ou une pomme à l'étalage, il n'y a pas trop de préjudice, peut-être qu'on le ferait plus souvent. Mais on sait à l'intérieur de soi qu'il y a aussi une instance, qu'on appelle le surmoi sur le plan psychologique, qui nous dit « non, c'est pas bien ». Le préjudice, il est quasi infime, mais tu vas te faire du mal à toi-même par rapport à tes propres valeurs. Tu vas transgresser tes propres valeurs. Donc, voilà, ici, il y a quelque chose autour de la culpabilité. Et on voit bien, puisqu'on a reparlé tout à l'heure de la question de la culpabilité, c'est-à-dire il y a une culpabilité qui est fondamentale. La culpabilité, je le rappelle souvent, c'est le premier rempart contre le meurtre. Qu'est-ce qui fait que je ne vais pas crever les pneus de mon voisin qui s'est mal garé devant moi, qu'est-ce qui fait que je ne vole pas dans un magasin ? C'est mon sentiment de culpabilité. Alors, de temps en temps, il y a une culpabilité qui n'a pas d'objet, par exemple, c'est-à-dire on se sent coupable, mais il n'y a pas de raison de particulière. Ou de temps en temps, on a commis une toute petite chose, mais ça va prendre une proportion qui n'est pas ajustée. Hein. Donc là, il y a une culpabilité qui est stérile, qui n'aboutit à rien du tout et qui est paralysante. Celle-là, les gens viennent souvent la travailler chez le psychanalyste. Hein. Mais bien se rappeler que la culpabilité, c'est le premier rempart contre le meurtre. Meurtre dans le petit meurtre qui est juste de voler une tablette de chocolat ou une pomme dans le supermarché, ou le meurtre... voilà. Donc, chez le pervers, il n'y a pas de culpabilité. C'est ça d'ailleurs qui est extrêmement problématique avec les pervers, c'est-à-dire en particulier les pervers pédophiles. Ils disent... Ben oui, mais ce petit enfant, je l'aimais bien. Et ce qui est tragique, c'est qu'ils sont sincères.
Pas de culpabilité et un abus de pouvoir. Et ça, nous le verrons, docteur Dominique de Michel, dans 15 jours. Dans 15 jours, où nous poursuivrons notre émission sur le mal. Merci beaucoup.
Merci Simon. Au revoir.